Merci, Saint-Esprit. On revient avec mon mari de 3 jours. On était au Conseil prophétique européen à Rome. Ils ont demandé à des personnes... je pense que vous connaissez Cindy Jacobs. Voilà, elle est référente en prophétique. Donc, elle supervise au niveau mondial. Et puis, ils ont fait un conseil prophétique africain, européen. Et donc, ils m'ont demandé de faire partie du européen. Vous savez ce qui m'a touchée quand j'y suis allée? On est rentré hier soir tard. Notre avion avait du retard. On est revenu à 23h avec Pierre. Et puis, on s'est dit, on va vous partager ce qu'on a reçu. C'est ce qui me touche. C'est qu'on n'est pas des fous, en fait. Les paroles qu'ils ont données, on est dedans. On est dedans. Tu sais, tu finis par te dire, Seigneur, enfin, sérieux. Parce que vous savez, des fois, on est à Belfort, vous voyez, puis Jean-Marie, il a enseigné sur l'histoire de l'Église. Donc, des fois, tu peux être tellement habitué au fait qu'on te dise ce que Dieu peut faire, des grandes choses, et qu'il va s'apprêter à les refaire parce que Dieu est comme ça. Amen. Dieu, il n'abandonne pas, qu'au final, en fait, j'avais peur, moi, de m'être un peu habituée, qu'on était des charismatiques. Et puis, soit j'étais frustrée des histoires d'avant où les gens étaient guéris et tout ça, soit j'étais un peu en mode, ouais, Seigneur, j'espère quand même vraiment, vraiment que tu vas le faire. Mais il va vraiment, vraiment le faire. Il va vraiment, vraiment le faire et il est en train de le faire. Amen. Donc, vous vous rappelez, ça fait un an et demi à peu près que je vous avais prophétisé sur le réveil. Okay, il n'y a rien de nouveau pour vous. Vous vous rappelez, le réveil... en fait, c'est pas une finalité. En fait, je me suis trompée de vous parler que du réveil. Parce que si le but, c'est seulement le réveil, on oublie ce qui doit suivre le réveil. Vous êtes avec moi, enfin, voilà. Donc, du coup, en étant là-bas, alors vous savez comment c'est, quand vous êtes dans une pièce avec 70 prophètes, ton niveau de prophétique à toi-même augmente. C'est pas pareil pour vous quand vous êtes au contact de gens qui ont quelque chose, ta foi, elle est nourrie, elle est boostée, quoi. Et puis, j'avais la sensation d'avoir des antennes branchées dans le ciel. Et en fait, l'une des choses qu'ils ont dit, c'est que ce réveil, il n'est pas qu'un réveil, c'est un réveil avec une réforme. C'est les deux qui vont aller ensemble. Est-ce que vous me suivez? Et pendant qu'il parlait, j'ai commencé à être visitée par Dieu. J'ai dit à Dieu, mais c'est ça, la pièce du puzzle qui me manquait, parce que j'ai toujours senti dans mon esprit qu'il y avait un réveil. Et en même temps, je disais à Dieu, pourquoi un fleuve qui coule? Il y a une raison pour laquelle le fleuve va couler. Amen. Il y a une raison pour laquelle la pluie, elle tombe. Il y a une raison pour laquelle le soleil se lève. Donc j'avais ce truc en moi toujours qui disait, ok, ça va être plein d'âmes sauvées. Ok, ça va être des malades guéris et tout ça. Mais on va où, Seigneur? On fait quoi? Et je voudrais vous le partager ce matin. Amen. Ok. Donc du coup, le réveil n'est pas une finalité. Le réveil est la réforme. Et, pardon, tu sais quoi, Maxime? Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander à toi de passer les trucs au fur et à mesure, ça te va? Parce que, entre mon ordi et ça. Et donc, si je te dis réforme, c'est que quelque chose était formé et qu'il a été déformé et qu'il faut le reformer. Si je te dis de réécouter, c'est que tu n'as pas écouté. La réforme, c'est retourner à l'évangile, la Bible pure à 100%. C'est ça la réforme. La réforme, alors le réveil, c'est une effusion de l'esprit. La réforme, c'est un retour à la parole de Dieu, au roc, au socle. C'est-à-dire que le réveil, il va réveiller l'Église. Mais la réforme, elle va réveiller le monde. Quand il y a eu des réformes dans l'histoire de l'Église, ça changeait les sociétés. T'es avec moi? C'est à partir de réformes qu'on a arrêté l'esclavagisme. Amen. C'est à partir de réformes que les écoles sont nées. Tu sais que c'est les protestants qui ont inventé les écoles, t'es avec moi? Amen. Tu sais que les hôpitaux, c'est des chrétiens qui les ont inventés? Amen. Tu sais que les orphelinats, c'est des chrétiens qui les ont inventés? Amen. Tu sais que la Croix-Rouge, c'est des chrétiens qui l'ont inventée? Amen. Tu sais que l'armée du salut, c'est des chrétiens qui l'ont inventée? Amen. C'était des réformes. Parce que si on vit un réveil, vous et moi, on va sauter alléluia tous les dimanches matin. On va avoir des paillettes d'or. Pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Pour la réforme. Si tu étudies l'histoire de l'Église, normalement, un réveil, il finit par s'éteindre, sauf s'il provoque une réforme. T'es avec moi? Je t'explique. Le réveil, c'est le feu de Dieu qui vient, et la réforme, c'est la capacité d'accueillir, de gérer et de propulser ce feu partout. Alléluia. Du coup, si je prenais l'exemple de la maison, la réforme, elle change la structure de la maison, les fondations, la toiture. Et le réveil, lui, change l'intérieur de la maison. Le réveil, c'est la chaleur, c'est la louange entre nous, c'est le Saint-Esprit que vous sentez, amen. Mais la réforme, quand elle vient, elle change le fond, elle change la structure. Je vais essayer de m'expliquer. Vous êtes un peu en connaissance de Martin Luther ? Ok ? Martin Luther, il n'a pas été, avec des paillettes d'or visité par Dieu, je ne sais pas quoi, secoué ou je ne sais pas quoi. Il a commencé à dire, ce n'est pas normal que l'Église catholique dise aux gens, il faut payer des indulgences pour vos péchés. Et il va ramener la grâce. Et il va, imaginez, hein, il va éradiquer du pays, vous imaginez la somme d'argent, l'économie, comme elle a changé dans l'Europe. Parce que là où on pillait les gens en leur disant, tu veux te pardonner ? Donne de l'argent. Vous êtes d'accord que ça choque ça aujourd'hui ? Mais avant c'était normal. Et ils ont amené une réforme. Et il a dit, ça, ce n'est plus normal. Et puis, à l'époque, les gens ne lisaient pas la Bible, c'était que les prêtres, comme ça les prêtres disaient leur interprétation de la Bible. Et Luther, il a dit non, non, tout le monde peut lire la Bible, parce que s'ils ont le Saint-Esprit, ils comprendront le livre, tout seul. Et donc il va pas que amener un réveil de wouhouhou, il va amener une réforme. Et qu'est-ce qui se passe ? Gutenberg arrive, ils impriment les Bibles et les Bibles partout dans le monde. Vous savez que l'application de la Bible, la semaine dernière, a atteint 1 milliard de téléchargements. C'est pas beau ça ? Juste l'application. Donc on compte même pas toutes les Bibles imprimées et tout ça. La Bible reste aujourd'hui le livre le plus traduit, le plus imprimé et le plus lu dans le monde entier. Et c'est un best-seller qui n'a jamais été détrôné dans toute l'histoire de l'humanité. Va m'expliquer ça. Amen. Donc ce réveil va provoquer une réforme. Et la réforme, en fait, tu sais quoi ? Elle vient dans l'Église. Et elle touche la structure de l'Église et elle dit « ça va pas ». Le réveil, ça te réveille toi, la réforme, ça réforme l'Église. Dis à ton voisin « le réveil, c'est pour moi, la réforme, c'est pour nous ». Dis à ton voisin « le réveil, c'est pour moi, la réforme, c'est pour nous ». Amen. C'est-à-dire que quand tu as une réforme, c'est un mouvement d'église, et on va en parler tout à l'heure, de la réforme que nous devons vivre. Parce que vous savez quoi, là, on est tous en train de juger les cathos en disant « Mais c'est vrai, quelle bande d'enfoirés, ils ont fait payer les indulgences. » On a nos propres indulgences. Amen. Et on va les dénoncer ce matin, et on va vivre une réforme. Amen. Une réforme. Amen. Alors, je voudrais faire des décrets avec vous ce matin. Ça vous va ? On va lire ensemble. On peut y aller ? On y va. Le réveil allume un feu. La réforme, elle construit la cheminée pour garder ce feu. Le réveil change le cœur. La réforme, elle change les choses. Le réveil, il donne la vie. La réforme lui donne une forme. Le réveil ouvre le ciel. La réforme l'organise sur terre. Le réveil, c'est une explosion. La réforme, c'est une construction. Et si cette partie n'a pas lieu, le réveil peut devenir du déséquilibre. Vous êtes avec moi ? Amen. Le réveil touche les esprits, la réforme, elle touche les structures. L'opportunité de collaborer... il y a une collaboration qui va se faire. J'ai mal écrit, excusez-moi. Il y a une collaboration entre Dieu et toi dans le réveil, et dans la réforme, il y a une collaboration entre toi et les autres. Yes, Lord. Amen, Jesus. Excusez-moi, mais quand on est prophétique, nous, on voit déjà. Alors, du coup, on est content. Quand tu vis un réveil, c'est toi avec Dieu. Qui, en ce moment, sent qu'il doit passer du temps avec Dieu ? C'est bien, vous êtes dans le réveil, c'est très bien. Mais la réforme, si tu es déjà en train de basculer dans la réforme, normalement, tu commences à t'intéresser aux autres. C'est plus toi. Amen. J'ai aimé ce conseil prophétique. Parce que, alors vous verrez, elle vient à éclosion. Sharon Stone, c'est celle qui va s'occuper de l'Europe. Sharon Stone, si vous voulez, pas l'actrice. Ah, il faut toujours. Ouais. Voilà. C'est une femme naine. Et donc, vous pouvez la voir sur les réseaux. Et il y a des gens qui m'ont dit, oh là là, Johanna, elle est toute botoxée, si vous regardez. Qui a vu sa photo ? Voilà. Elle n'est pas botoxée, elle avait la maladie des os de verre. Elle s'est brisée 125 fois, les os. Donc, on l'a un peu... on l'a un peu retravaillé. Et je veux le dire parce que les Français, je vous vois venir en disant « Elle a invité une botoxée. » Vous êtes avec moi ? Donc je dis les choses. Et elle faisait des réunions de guérison, Pierre, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? En fauteuil roulant. À 19 ans, en fauteuil roulant, elle faisait les réunions de guérison. Comment ? Et elle a guéri à 27 de la maladie de Vermeer. Mais du coup, ça l'a laissé naine avec une jambe, voilà, et des os. Ben, ils ont dû retravailler. Dès que tu as une fracture là, c'est à vie. On s'est compris. Amen. On continue nos décrets ? Amen. La prochaine. Merci, Maxime. Le réveil transforme des vies. La réforme, elle transforme des sociétés. Le réveil, sans réforme, finit par s'éteindre. Mais une réforme sans réveil ne porte pas de vie pour le changement. Dans le réveil, Dieu y vivifie. Dans la réforme, Dieu y corrige. Le réveil est l'esprit. La réforme est la parole. T'es d'accord avec moi qu'il faut les deux ? Vous savez, j'ai tout compris pendant que j'étais là-bas pendant 3 jours. En plus, on est à 1 kilomètre du pape, tu sais. J'avais tout, je comprenais tout. Dans ma tête, ça allait vite. Pierre, il m'a dit, mais comment ? On n'arrivait pas à dormir. Il m'a dit, t'as pas l'impression d'être branché avec notre cerveau ? Je lui ai dit, mais oui, Pierre, on était électrifiés, tu sais. Et puis, en fait, j'ai compris pourquoi tous les réveils, on est passé pour des cinglés, on est passé pour des déséquilibrés. Parce qu'il n'y a pas eu une réforme derrière. Amen. Et les réformes, pourquoi elles sont toutes venues, excusez-moi, pardon, ça va être en ligne, des églises luthériennes toutes mortes aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas accepté le réveil. Réveil et réforme, dis à la personne à côté de toi, réveil et réforme. Réveil et réforme. Glory to God. Le réveil, il dure peu de temps en fait, hein, mais la réforme, elle est faite pour faire perdurer les réveils. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les luthériens existent encore aujourd'hui. Les Mennonites existent encore aujourd'hui. C'était des réformes. Mais les réveils, ils n'ont pas duré. Et en fait, moi, j'avais peur d'annoncer un réveil et de me dire, « Ouais, Seigneur, ça va faire... » Je m'attendais à ça. Tu vois, j'ai dit à Dieu, on va se faire un Azusa Street de 3 mois, puis on va redescendre. Et du coup, j'avais une prière constante qui disait à Dieu, « Comment on fait pour que ça dure ?» Et pour pas qu'on devienne déséquilibré, dis à ton voisin, « Pas déséquilibré. » Parce que j'ai eu de la frustration contre les charismatiques. Est-ce que vous êtes avec moi, ceux qui ont eu du mal parfois avec les charismatiques ? Vous avez été gênants. Des fois, c'était vraiment compliqué de vous gérer. Amen. Et de me gérer et de se gérer. Donc, le réveil, c'est une repentance personnelle, mais la réforme, c'est une repentance collective. C'est l'Église qui décide de changer. C'est l'Église qui dit, à partir de maintenant, je ne paye plus pour mes péchés, je reçois par la grâce. Amen. C'est l'Église qui dit, je vais lire ma Bible, au lieu d'attendre qu'un prêtre me dise ce que je dois croire. Alors tu vas dire, alors on n'a plus besoin de ministère, mais je t'ai toujours dit, un ministère a un seul et unique but, te pointer à Jésus. Il n'est pas le médiateur et il n'est pas l'explicateur. Amen. Amen. Si un pasteur enseigne mal, tu l'écoutes pas. Alléluia. Bon, il n'y a pas beaucoup d'alléluia, c'est bien. Le réveil te refait découvrir le Dieu d'amour, mais la réforme, elle te fait redécouvrir un Dieu d'ordre. Oh, de l'ordre dans la maison de Dieu. Eh oui, on enlève les indulgences, on enlève les trucs comme ça, mais comme j'ai dit, on va enlever les nôtres tout à l'heure, vous allez voir. Alléluia, glory to God. Tu peux mettre la suivante, merci Maxime. Le réveil, il ranime l'Église. La réforme, elle redresse l'Église. Le réveil, il te pousse. La réforme t'y amène dans la bonne direction. Le réveil fait courir. La réforme, elle te fait tenir. Le réveil ouvre les cœurs. La réforme, elle ouvre les yeux au changement nécessaire. Le réveil met le feu, mais la réforme met les fondations. Le réveil te met sur la voie. La réforme est la voie. Le réveil secoue et la réforme, elle construit. Quand il y a le réveil, et c'est ce qu'on vit, il y a des délivrances, ça bouge. Dis à ton voisin, ça bouge. Ça bouge. Mais une fois que tu as babababababa, t'es debout, t'es libre, t'es fort, t'es construit, t'es équilibré, t'es sage. La réforme. Amen. Oh Seigneur Jésus. Voilà, Seigneur, ce qui va se passer. La suite. Le réveil, c'est la repentance. La réforme, c'est le discipulat. Le réveil est un cri. La réforme, c'est une parole établie. Le réveil, il crie, réveille-toi, toi qui dors. Et la réforme, elle dit, levons-nous et bâtissons. Oh, j'ai envie de courir dans la salle. Le réveil t'a soulevé, mais la réforme, elle t'a stabilisé. Le réveil évacue le moche et la réforme construit le beau. Le réveil fait naître la foi et c'est la réforme qui lui permet de s'appliquer. Non, mais c'est énorme. Hein. Non, mais je vous ai dit, j'étais dans l'avion, l'avion avait du retard et ça a téléchargé. Hein. Et toute la nuit, j'attendais que de vous parler. J'ai loué, hein, j'étais sage, j'ai attendu pour vous parler. Le réveil frappe fort, la réforme frappe juste. Oh, c'est bon ça. Oh, Seigneur. Ça vous fait pas Réma dans l'esprit? Oh, Jesus. La suite. Le réveil inspire, la réforme elle organise. Le réveil est la révélation, la réforme est la mise en place de cette révélation. Le réveil c'est une étincelle, mais la réforme c'est le bois. C'est quoi le bois? Le bois c'est quelque chose de solide, de dur, de construit. Tu mets une étincelle et c'est parti. Mais tu peux pas avoir les dons de l'esprit avec du n'importe quoi. Ça va, il faut du bois. Et ça va prendre. Amen. Quand je mets en gras, c'est parce que je bondissais dans mon esprit en les écrivant, d'accord? Le réveil touche les cœurs de l'Église, mais la réforme touche le cœur de l'Église. Vous me suivez ou pas, non? Oh, Jésus. Le réveil évacue le moche et la réforme construit le beau. Le réveil fait renaître, la réforme fait durer. Le réveil fait découvrir l'esprit, la réforme fait découvrir la Bible. On revient à la Bible. Tu veux être plein des dons de l'esprit? Lis ta Bible, nourris-toi de la Bible, connais la Bible mieux que tes songes et tes révélations et tes visions et tes trucs perchés. Connais la parole. Elle sera ton ancre, elle sera ton équilibre. Pour moi, les plus grands prophètes connaissent leur Bible. La suite. Le réveil, c'est l'oreille et les yeux. Et la réforme, c'est les mains et les pieds, c'est-à-dire la mise en action. Le réveil te permet d'entendre Dieu maintenant. Tu es visité par l'Esprit, tu comprends les choses de Dieu. La Bible, elle te parle quand tu la lis, tu commences à parler en langue. Tes oreilles et tes yeux sont débouchés. Et la réforme, c'est la mise en action avec les mains et les pieds. Amen. Ok. Le réveil renverse les mauvaises habitudes, mais la réforme met en place les bonnes habitudes. Le réveil est un cri. La réforme est la réponse à ce cri. Le réveil brise les chaînes du mensonge et la réforme, elle scelle la vérité. C'est pas beau ça? C'est pour ça que quand il y a un réveil, quand il y a les fruits, quand il y a une vague de l'esprit qui vient, c'est pour ça que tu vois que l'ennemi ne peut pas tenir. N'ayez pas peur des réunions où les gens manifestent, parce que en fait c'est ça qui est normal. C'est l'ennemi qui s'en va. Amen. Est-ce que tu sais quand ton robinet est bouché et que tu mets une pression, ça fait blum, il y a plein d'eau sale. Mais tu t'inquiètes pas parce que tu sais que derrière, il y a l'eau claire qui arrive. Quand j'ai fait les travaux, c'était comme ça. Pierre, il m'a installé ma salle de bain, je voulais me faire un petit bain et c'est de l'eau caca qui est sortie. Mais après, j'ai de l'eau claire et je mets de la mousse à l'amande. C'est merveilleux. Le réveil fait trembler les murs et la réforme fortifie les fondations. Là où le réveil a pu secouer, la réforme a pu reconstruire. Le réveil est un feu et la réforme construit l'autel pour accueillir ce feu. Oh Jésus, vous êtes avec moi? Oh Jésus. Yes. On continue. Le réveil, c'est tomber en amour. La réforme, c'est le mariage. Le réveil, ce sont les fiançailles. La réforme, c'est le mariage. Je voulais mettre le mot alliance, mais je me suis dit, ils vont encore tomber dans du vocabulaire chrétien, l'alliance. Tu vois le truc? Quand tu as le réveil, tu es tout en amour. Mais quand tu es dans la réforme, tu as fait alliance avec Dieu. Et tu es dans les tranchées. Parce que Luther ou les autres, ça leur a coûté. Dis à ton voisin, la réforme, elle coûte. Hein. Parce qu'on va se lever contre des trucs complètement malades là-dehors. Amen. L'Église, elle va le faire. C'est ça la réforme. Oui? Ok. Le réveil, ce sont des âmes sauvées, mais la réforme fait de ces âmes des disciples. Le réveil fait couler la folie de Dieu, mais la réforme fait couler la sagesse de Dieu. Bref. Ah, Jesus. Le réveil impulse, la réforme fait durer. Le réveil est un souffle puissant, la réforme est un souffle durable. Le réveil ébranle les mauvaises fondations, la réforme renforce les piliers. C'est, oh là là. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut être lion et agneau. Il n'y a que lui qui peut faire tata, comme ça. Alléluia. On met la suite. Le réveil, il brise le mauvais passé et la réforme nous amène au bon passé qui est celui des actes des apôtres. En fait, le réveil, il va enlever tout ce qui est moche de notre passé et tout ça, mais la réforme, elle va aussi dans le passé, elle va retourner aux écritures bibliques, saintes, des actes des apôtres. En fait, les deux ont la même mission. Pour moi, le réveil et la réforme, ce sont deux frères et sœurs d'une même mère, qui ont la même ADN, qui est de nous mener à la gloire de Jésus. Amen. Et les deux vont regarder en arrière. Il y en a un, il va nous libérer du péché, et il y en a un autre qui va voir loin derrière en disant, nous revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu, des actes des apôtres. Amen. Le réveil accueille Dieu, et la réforme, elle garde Dieu. C'est-à-dire que le réveil, c'est quand tu es visité par Dieu, mais tu ne veux pas que ça s'en aille. Alors tu commences à dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu est en train de faire ? Amen. Et on commence à écouter et structurer tout ça. Le réveil bouleverse. La réforme, elle stabilise. Le réveil transforme l'intérieur pour une réforme qui impacte l'extérieur. Le réveil illumine, la réforme transforme. Et j'aime bien celle-là, c'est le réveil fait naître. La réforme, elle fait grandir. En fait, il faut toujours un souffle de l'esprit dès le début. On prend la parole de Dieu, ça vous va ? Tu prends acte. Ils sont visités, c'est le premier réveil, t'es avec moi. Visités par Dieu, flamme de feu, parler en langue, guérison, miracle. Et la suite, c'est quoi ? Paul, il arrive et il fait une réforme. Il dit maintenant, les gars, ce qui se passe là, le feu qu'on a reçu, on l'organise, on se met en place, on fait ce qu'il faut pour que ce qu'on a reçu là soit pas l'effet d'un pétard mouillé, en fait. Amen. Amen, amen. On va à la suite. Le réveil est le vent dans les voiles, mais la réforme, c'est la boussole pour arriver à bon port. Le réveil brise les verrous, la réforme garde les portes ouvertes. C'est-à-dire que tu vas avoir un souffle de l'esprit qui va faire que tout ce qui n'est pas de Dieu pou, 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 soit propulsé. Mais après, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que ce que Dieu a ouvert, ça reste ouvert et ça ne se rebouche pas. Est-ce que vous êtes avec moi ? Je ne veux pas citer certaines dénominations parce que je n'aime pas faire ça, mais au niveau de l'histoire de l'Église, normalement, on devrait le faire parce que c'est des faits historiques. Si je vous citais les dénominations qui nous paraissent, vous et moi, les plus mortes, elles sont nées d'un réveil à la base. Leur canal a fini par se boucher. C'est triste, non ? C'est super triste. C'est super triste. Le réveil donne les dons de l'esprit, mais la réforme, elle donne les fruits de l'esprit. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah ça doit rentrer. Le réveil, il va faire la guérison des malades, chasser les démons et tout ça. Mais la réforme, c'est ce qui fait à un moment donné que coule. Les fruits de l'esprit, c'est Galates 5, 22, l'amour. La joie, la paix, la bonté, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi. Amen. Je vais te dire un truc. Hein. Quand il y a un réveil et que les gens ils prophétisent et ils parlent en langue et tout ça, mais ce n'est pas des gens en paix, ce n'est pas des gens pleins d'amour ou tout ça, ça va aller dans le mur dans pas longtemps. Ça ne peut pas marcher. Parce que normalement, les choses de l'esprit finissent toujours par construire. Dis à ton voisin, ça construit. Ça construit. Le réveil ramène à la vie. La réforme, elle garde en vie. Le réveil donne la joie. La réforme donne la paix. Le réveil est la chaleur d'une maison. La réforme, c'est le ciment de la maison. Vous voyez la différence ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que votre esprit, c'est. Le réveil ouvre la bouche des gens et la réforme met les bons mots dans la bouche des gens. Ils connaissent la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es visité par Dieu, des timidités s'en vont. La présence de Dieu vient, paf, c'est ouvert. Mais c'est la réforme qui fait que tu ne vas pas dire n'importe quoi après. Tu es avec moi ? Oh, alléluia. On continue. Le réveil te montre le spectaculaire de Jésus, mais la réforme, elle te montre la stabilité de Jésus. Le réveil, c'est Jean-Baptiste. La réforme, c'est Paul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est vraiment bizarre, Jean-Baptiste ? Il est bizarre. Écoutez-moi, ils ont donné la parole et je veux vous la dire. Le réveil qui va arriver, c'est le réveil de 1 Corinthiens 14 au verset 40, c'est-à-dire que tout se fasse, mais avec ordre. Ça va être ça le verset du réveil. Que tout se fasse. Donc tout va se faire Alors ne venez pas avec vos jugements un peu bizarres. Il y en a peut-être un, il va pleurer, il y en a un autre, il va sauter, je ne sais pas. Mais ça se fera avec la réforme, avec ordre. Amen. Soyez pas surpris si des pasteurs viennent vous voir, si on voit que vous faites pour de semblant, là, je ne sais pas quoi. Amen. Je vous en prie. Le réveil, il chante et il danse. La réforme, elle construit et elle bâtit. Ah, j'ai oublié celui d'avant, pardon. Le réveil revient à la personne incarnée de Jésus, mais la réforme, elle revient à la parole qui est Jésus. Vous êtes avec moi que Jésus, c'est une personne et c'est la parole. Ok, amen. Le réveil remobilise l'Église. La réforme lui donne les consignes. Le réveil, il va faire... Tout le monde va courir, on dit « Ouais, il se passe quelque chose et tout !» Après, la réforme, elle arrive et elle dit « on fait ça et on va être efficace. » Amen. Amen, amen, amen. Le réveil, c'est Jésus qui répond à notre cri de voir sa gloire. Et la réforme, c'est nous qui répondons au cri de Dieu d'avoir une épouse sans tâche. Non, mais je vous ai dit, j'ai passé une très bonne nuit. Je recommence. Le réveil, c'est Jésus qui répond à notre cri de voir sa gloire. Mais la réforme, c'est nous qui répondons au cri de Dieu d'avoir une épouse sans tache. Le réveil va éveiller souvent les évangélistes et les prophètes. Est-ce que les évangélistes et ceux qui sont prophétiques, honnêtement, je sais, vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas un peu excités en ce moment dans votre esprit? Vous n'avez pas 1000 projets dans votre tête? Voilà, je vais essayer de vous aider. Levez la main si vous faites partie des gens qui ont 1000 projets. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que vous êtes à l'intérieur de vous en mode... Il y a un souffle, en fait. Et la réforme, elle éveille les enseignants et les apôtres, ceux qui vont mettre en place les choses. Donc les évangélistes et les prophètes, il faut travailler du coup avec les apôtres et les enseignants. Amen. Il faut. On continue. Amen. On n'en a jamais assez. Le réveil, il impacte l'Église. Elle se réveille. La réforme, elle impacte la société. Le réveil vient redonner la force à l'Église pour la mission de la réforme. Le réveil, c'est un souffle de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, à CBM, qu'on est en train d'être revigorés? Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ça, le réveil. Mais tu n'es pas revigoré simplement pour être un youpi-youpi-a, un petit pas de patrouille. Tu es revigoré pour une mission qu'est la réforme. Le réveil, c'est manger au banquet du roi, mais la réforme, c'est être dans l'armée du roi. Le réveil réveille l'Église. La réforme corrige l'Église. La réforme ne tue pas le réveil, elle en est le fruit. Normalement, ça doit produire un changement profond. Amen. Mais j'aime bien comment Dieu fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un bon papa. Il ne vient pas nous dire, il faut corriger. Avant ça, il nous relève. Il nous purifie, il nous aime, il nous visite par son esprit. Et après, on est en feu pour la mission. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait toujours commencer par une réforme. Mais je me suis toujours dit, il faut vraiment dire aux gens la vérité de la parole. Et Dieu, il m'a dit, mais Johanna, tu l'as déjà fait. Est-ce qu'ils ont entendu? Non. Est-ce qu'ils ont changé? Non. Est-ce que les démons s'en vont? Non. Il me dit, il te faut mon esprit. Et l'esprit de Dieu, il ouvre tout. Amen. Il ouvre tout. On ne fait pas une réforme sans l'Esprit de Dieu. Le réveil et la réforme, ils ont un point commun. Ils ont un point commun. Ils ont tous les deux été arrêtés dû à des divisions. En gros, est-ce que vous connaissez tous la maladie du cancer? Le cancer, il peut tuer quelqu'un de 40 ans, quelqu'un de 60, un blanc, un noir, un vert, un jaune. Ok? Eh bien, c'est cette même maladie, elle peut tout tuer, cette maladie. Ce qui a tué tout réveil et qui a tué toute réforme. Alors, ce sera à papa, certainement, Jean-Marie, de vous faire un prêche sur chaque réveil et comment ils se sont éteints. On va faire le bilan. C'était une division entre les gens, c'est pas vrai? Très, 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 très souvent, quasiment tout le temps, ils se mettent plus d'accord, ils sont plus d'accord. Donc, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que je vais même te choquer, ça va peut-être choquer, tu sais que ce n'est pas le péché dans ta vie qui va empêcher le réveil. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire et quand il avance, il avance. Et en fait, il va pouf ton péché parce qu'il t'aime, t'es son enfant. Par contre, Dieu déteste la division. Il déteste ça. Dieu, il le dit, amen. Il le dit. Et toute la Bible, ce n'est que des histoires. Une fois, je disais à Dieu, mais si je devais résumer la Bible, c'est une histoire d'humains qui finissent toujours par se prendre la tête entre eux ou faire la guerre. Vous n'êtes pas avec moi? C'est ça la Bible. Je te l'ai résumé là, en deux secondes. Et on a besoin d'un rédempteur, d'un réconciliateur, d'un médiateur, d'un avocat pour réparer. Même avec Dieu, on s'est embrouillé. On est fort quand même. Même avec lui, on a des trucs contre lui. Règle ça. Ça va boucher le canal du réveil et de la réforme. Demande pardon à qui tu dois demander pardon. Amen. Ne sois plus jalouse. C'est pas la peine d'être jalouse. Parce que pendant que tu rêves d'être comme elle, tu peux pas être toi. C'est dommage. Non ? Amen. Amen. On continue. Les pharisiens sont l'ennemi commun du réveil et de la réforme, car ils n'aiment ni la vie ni le changement. Alors je vais vous dire, en gros, ce qui va nous arriver, hein, c'est qu'on va être critiqué par pas les gens du monde, en général les gens du monde, soit ils sont athées, ils s'en fichent, soit ils sont touchés, bouleversés, transformés. Amen. Ça, on va avoir des petits pharisiens à nos trousses, les amis. Ben, écoutez, on va faire comme Jésus, les chiens à bois là, caravane passe. Mais je ne peux pas vous prêcher un réveil et une réforme sans vous dire les opposés. Ils détestent la vie et ils détestent le changement. Pour eux, c'est comme ça, c'est établi comme ça. Ce n'est pas établi comme ça. Dieu est un fleuve de vie en mouvement. Amen. Le réveil moissonne le blé et la réforme, elle fait du pain avec le blé. Le réveil apporte des pierres et la réforme, elle bâtit avec ces pierres. Les pierres vivantes, vous savez, la Bible dit, hein, les pierres vivantes, c'est nous, c'est vous. Donc, le réveil, il y a une grande moisson d'âme qui arrive. Dis à la personne à côté de toi, il y a vraiment une moisson d'âme. Il y a beaucoup d'âmes qui arrivent. Mais si on ne veut pas les perdre, il va falloir aller dans la réforme. Amen. Amen. J'ai marqué, tu peux mettre la suite. Le réveil, il crie « Alléluia !» Et la réforme, elle dit « Amen !» Elle dit « Ainsi soit-il !» Amen. Maintenant, je vais vous partager nos indulgences à nous. Ça vous va ? Hein ? Parce qu'on parle de réveil et on se dit « Ah oui, ah oui, ah oui, oui, le Seigneur, on va louer, on va danser. » Voilà. Et il va aussi faire la réforme. Alors, j'étais stupéfaite hein, pendant qu'on était là-bas. Vous savez ce qu'ils ont dit que serait ce réveil ? Ce réveil serait une transformation des cœurs. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. Amen. Transformation des cœurs. Alors il y a une fille qui dit « Moi, j'ai fait un songe où Dieu il faisait une opération du cœur. » J'ai dit « Ah ben ça, je l'ai prêché. Éclosion, gloire à Dieu !» Vous vous rappelez, hein, le cœur de pierre en cœur de chair. Et puis ils disent « Le réveil qui arrive, c'est un réveil d'amour. » Donc tout ce qui a été prophétisé dans cette église sur le réveil, vous le savez déjà. Amen. Et maintenant, on va passer à la réforme de ce que Dieu va toucher. Dans le réveil, il touche les cœurs de pierre, il touche le cœur et il fait aimer. Et j'aimerais vous dire une phrase qu'ils ont dit que j'ai beaucoup aimée. Dieu est amour, vous êtes avec moi ? Mais l'amour n'est pas Dieu. Je recommence. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a des façons d'aimer, des fois, qui ne sont pas inspirées de Dieu. Amen. C'est fort, ça, hein ? Donc, en gros, si je résume le réveil, c'est des cœurs changés. Et des cœurs qui aiment à nouveau. Ça vous va ? La réforme, elle touche à la structure. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc l'une des structures qui va bouger, aussi fortement que les indulgences ont bougé avec Luther, ça va être celui de la louange biblique. La louange actuellement dans le corps de Christ n'est pas biblique. La louange dans la Bible, elle crie, elle saute, elle démontre, elle est là, elle est expressive. Et vous et moi, on est des bons petits Français bien rangés. Donc, tu vas me dire, bon, Johanna, tu me dis qu'il faut toucher à la structure. Et oui, 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 parce que quand on va libérer, parce que Jésus, il a dit, je viens chercher quoi ? Des adorateurs. Merci. Une personne sur 300 personnes. Il vient chercher des adorateurs. Donc Dieu, il va restructurer la louange. Vous allez voir des concerts de louange se vider et des groupes d'adoration se lever. Vous allez voir que selon la Bible, la louange devait être prophétique, musicalement qualifiée. Est-ce que vous êtes avec moi ? Excusez-moi, que parfois, parce qu'on est des bons chrétiens bien gentils, on met à la louange des gens qui savent ni chanter ni jouer. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Je m'en fiche, copine, que ton rêve, c'est d'être Jennifer ou Céline Dion. Tu ne sais pas chanter. Laisse tomber. dans la Bible, ils étaient hautement qualifiés dans leur instrument. Et tu sais pourquoi ils l'étaient ? Parce que quand tu rentres dans le prophétique, tu maîtrises l'instrument et ça coule et tu n'as plus besoin de réfléchir à où est-ce que je mets mes noix, où est-ce que je mets ma note. Tu n'es que dans l'esprit. Ça, tu n'as pas compris, mais je pense que tu vas comprendre. Quand tu es musicien, ceux qui font de la musique, si tu ne maîtrises pas ton instrument, tu vas être concentré sur quoi ? Ton instrument. Mais si tu maîtrises ton instrument, tu es concentré sur quoi ? L'esprit de Dieu. Donc la louange n'était pas censée être un couplet, un refrain, un couplet, un bridge, une fin. La louange était censée être, et dans le temple c'était comme ça, 24 heures sur 24. Et cette louange-là va revenir. Ça, c'est la maison de Dieu. Parce que la réforme, c'est un renouvellement de la maison de Dieu. C'est Dieu that shakes his house. C'est Dieu qui vient et qui secoue sa maison. Et qui dit, mais ça, c'est pas normal. Vous savez, mon mari fait des travaux. Si un fil qui pend, c'est pas normal. Amen. Non. Eh bien, Jésus, il va... Enfin, je ne regarde pas là-bas parce qu'il y a un électricien et il y avait des fils qui pendaient chez moi. C'est vrai. Vous avez raison, je confesse. Mais mon mari va s'en occuper, évidemment, dans pas longtemps. Sinon, je fais revenir Anthony chez moi, qui m'a accroché deux lustres dans ma salle de bain. N'allez pas le voir, il n'est pas dispo. La véritable louange, elle va être la... Comment je pourrais dire ça ? La base de la maison de Dieu. Une maison qui loue, tu peux tout construire dessus parce que c'est Jésus qui est mis au centre et qui est le roi. Amen. Donc il va y avoir une secousse dans la louange. L'autre réforme qui va avoir lieu, c'est le travail d'équipe. Il y a une église construite avec un pasteur. Oui ? Ça n'existe pas dans la Bible. Je te choque ? Cite-moi le pasteur d'Éphèse. Cite-moi le pasteur des Corinthiens. C'était ensemble. Dis à ton voisin, c'est une réforme d'ensemble. Alors ça va faire drôle parce que Luther, quand il est arrivé, il a dit au pape, c'est pas normal. T'es pas censé être le représentant de Dieu sur terre, lui a-t-il dit. Oui ? Et il va y avoir la même autorité qui va venir et on va dire, ce n'est pas normal. On est censé être une équipe de ministères. Et il y en a combien de ministères ? 5. À mon sens, ce que je crois que Dieu va faire, c'est qu'il va lever des églises et il y aura les 5 ministères dans chaque église. Si tu as une église où il manque des évangélistes, je suis désolée, c'est malsain. Il faut aller chercher les gens dehors. Il y en a marre d'être tous ensemble à se faire du bien, gna 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 gna, bisous bisous, Jésus il m'aime. Il faut aller les chercher. Amen, amen, amen. Et les églises où il n'y a pas de prophète, la Bible elle dit, le peuple il périt par manque de vision. Si tu n'as pas de prophète, ton église, tu sais quoi, elle va étudier la Bible. Jéricho, Moïse, Paul, Corinthiens, Philippiens. Il faut la pensée de Dieu. Et si tu n'as pas d'enseignant, tu vas te retrouver avec une église déséquilibrée. Mais si tu as une église avec des évangélistes, des enseignants, oula, amen. Donc, dans cette réforme qui arrive, vous allez voir, ça va bouger. Dis à ton voisin, ça va bouger. La structure, elle va bouger. Il y a des pasteurs qui voudront plus être tout seuls. Ils vont dire, moi c'est fini tout seul, le burn-out, je ne le veux plus. Au secours, help. Amen. Et ça va presque se faire, tu sais, quand c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas que ça se fait tout seul. Ça se fait avec les cœurs qui sont prêts à le vivre. Je vais vous dire, c'est avec toute humilité, hein, vraiment avec toute... on est là-bas, on est à Rome, puis du coup on parle avec des gens et tout ça. La langue commune qu'on avait entre nous tous, c'est l'anglais, donc je pouvais bien échanger avec les gens. Écoutez, vraiment, on est une des rares églises où on a plusieurs ministères très différents à la tête et où j'ai pu dire que les gens avec qui je travaille, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. Et ils m'ont tous fait « wow ». Et j'aurais dit « écoutez, je me suis battue dans mon cœur de me dire « ça, c'est sacré. C'est sacré. T'es avec moi ?» Moi, je vais pas me prendre la tête avec Julien facilement. Julien est trop précieux pour moi. T'es avec moi ? Et je peux vous dire, il a raison souvent, Julien, c'est vrai. Ouais, t'es content là ? Non, mais c'est parce que c'est son copain. Il te fait des piqûres, hein, Pierre ? Il est médecin, Julien, oui, parce qu'il faut expliquer, parce que sinon les gens ils vont dire, c'est quoi cette équipe ? En fait, c'est juste que j'ai eu la sensation que c'est comme si Dieu me disait, Johanna, tu as l'autorité pour parler de la réforme, parce que quand tu te positionnes, tu as l'équipe avec toi. Vous savez que je ne suis pas toute seule là sur scène, là tout de suite. J'ai Mégane avec moi, j'ai Nelly avec moi, j'ai Pierre avec moi, j'ai Noémie avec moi. Amen, c'est des filles qui prient, c'est des filles avec qui on parle cœur à cœur. Du coup, ça, écoute, la réforme qui arrive, ça va être un truc que quelque part, je pense, le diable ne pourra jamais détruire parce qu'on va être ensemble. T'imagines le truc ? T'imagines le truc ? Combien de chrétiens sont tombés parce qu'ils étaient seuls ? Je veux te poser une question ce matin, est-ce que tu es seul ? Est-ce que tu le sais si tu es seul ? Tu le sais, il te faut des amis chrétiens. Amen. Et tu vas voir, ça va construire, ça construit. On est ensemble. On est ensemble. La réforme qui arrive va comme... C'est dur ce que j'ai coupé les têtes un peu, m'as-tu vu, star évangélique. Vous êtes avec moi qui a de la starification chez les évangéliques ? Ouais. Vous savez pas ce que c'est la starification ? C'est moche hein, le mot hein, que je viens de dire. Hein. Réfléchissez à ça. Des super pasteurs, des machins. C'est marrant parce que... Je vais vous dire un truc. Quand tu marches dans ton appel, tu n'as jamais besoin de « oui, 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 oui ». C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Et crois-moi, tu n'as pas envie de devenir connu, c'est Jésus qui doit être connu. Donc, c'est le travail d'équipe et les cinq ministères qui vont revenir. Une autre chose qui va être bougée, ça va être le fait que les générations vont travailler ensemble. Dieu demande aux jeunes de ne pas mépriser les anciens. Et les anciens, Dieu vous demande de ne pas emprisonner les jeunes. Là dehors, la Bible elle dit qu'à la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, oui. Et l'Église, elle va être la solution à ce qui est dans le monde. Et le fait que nous, entre générations, dans l'Église, ça va travailler ensemble, ça va être une force face à ce qui arrive dans le monde. Le monde là dehors, il met les personnes âgées dans les maisons de retraite et personne va les voir. Est-ce que vous savez qu'à la Covid, ils ont eu plus de personnes âgées qui sont décédées de solitude que de la Covid ? Vous vous rappelez de ça ? Donc, ce que Dieu va faire dans l'Église, et on le fera à la fin, et je vais vous demander les jeunes à un moment donné de vous lever et d'aller prendre une personne âgée dans l'Église dans les bras. Spirituellement, ça va faire péter le plafond. Hein. Amen. Des fois, il ne faut pas que shabababakanadadada, des fois, il faut faire des trucs... intelligent, précis, spirituel. Amen. Les personnes âgées, c'est l'or de notre Église. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec eux ? Non. Est-ce qu'on les aime profondément ? Oui. Amen. Et j'ai appris une chose. Si je ne suis pas d'accord avec mon père, je décide de lui obéir. Tu sais pourquoi ? Parce que je sais le poids spirituel. Tu es avec moi ? Obéis et tais-toi. Dis à ton voisin, obéis et tais-toi. C'est simple. Oui, on peut ne pas être d'accord, mais non, on ne peut pas être en rébellion. Amen. Les gens, ils me disent des fois, ça se passe bien d'être dans le ministère avec ton père. Je dis, non, pas du tout. Et oui, évidemment. Vous comprenez ? Amen. Bon, bref, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Ok. Je progresse, papa, c'est vrai. Je t'aime, papa. Je t'aime. On s'est beaucoup frité les deux, mais en fait, le fer aiguise le fer. Amen. Moi, je le dis, hein, parce qu'en en fait, faut être honnête. Bref, voilà. Je ne voudrais pas que vous croyiez qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes avec vos parents. Amen. Tous les mêmes. Ou avec les enfants, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, la réforme, elle va ramener les générations ensemble. Ça veut dire quoi ? Que les églises de jeunes, vous n'êtes pas inspirées du Saint-Esprit. Et permettez-moi, les églises de vieux, là, qui restaient dans vos vieux fonctionnements, vous n'êtes pas inspirés du Saint-Esprit non plus. Vous devez bouger les rangs. Une église qui n'a pas de jeunes, ce n'est pas normal. Une église qui n'a pas de personnes âgées, ce n'est pas normal. Ensuite, l'église, elle est multiculturelle. C'est tout, c'est comme ça. On retourne aux actes des apôtres. Amen, voilà, c'est tout. J'ai été voir des pasteurs d'églises ethniques et je leur ai dit, comment ça se fait ? Que vous n'avez pas de blanc dans votre église. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, Johanna, quand on est arrivés, nous, on était enflammés pour Dieu. Vous me permettez de dire, les Africains, ils étaient enflammés, ils sont arrivés en France, ils étaient tellement morts. Ben, ils sont réunis entre eux. C'est la faute à la France. Mais moi, j'ai voulu demander, j'ai voulu comprendre. Oui ? Ils ont raison. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je suis pas transgenre, je suis transcouleur. Je suis blanche, mais je suis une black à l'intérieur. C'est vrai ? Vous n'êtes pas avec moi ? J'aime chanter, j'aime danser, j'aime sauter. I'm out of the box. Amen. Donc, cette réforme qui arrive, c'est une réforme où Dieu ne va plus être d'accord avec le racisme. C'est immonde. Immonde. Le racisme, c'est l'enfer. Moi, j'ai toujours eu l'impression que le racisme, ça avait une odeur d'enfer. Amen. Et l'Église doit être multiculturelle et Dieu va commencer à ne plus être d'accord. S'il y a des mariages mixtes, je veux vous célébrer ce matin. C'est beau, c'est bien. C'est super. C'est beau. Et les enfants métis, à mon sens, ça fait partie des enfants les plus beaux que je vois. C'est pas vrai ? Oh là là, vous avez déjà vu Gloria et Elisha, elles sont où là, que je les mette bien à l'aise ? Elles sont belles, vraiment, il y a une très belle beauté dans la mixité. Dans la réforme qui arrive, tout ce qui n'est pas, alors je vais essayer de mettre les bons mots, aide-moi Seigneur, tout ce qui n'a pas été initié par l'Esprit de Dieu ne va plus durer, il y a comme un tri de Dieu. Alors je m'explique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas compliqué aujourd'hui en France de construire une église ? Tu ouvres une association et tu t'autoproclames pasteur. C'est pas compliqué, hein, faites-le. Non, ne le faites pas. Non, enfin. Et en fait, si tu n'es pas d'accord, par exemple, Sherazade, elle n'est plus d'accord avec nous, elle peut très bien dire je m'en vais et je vais construire une église comme je veux, avec ma vision et tout ça. Et elle peut partir, en parler à quelques personnes et tout ça. Cette église ne sera pas bénie. Par contre, Sherazade peut très bien avancer avec Dieu, marcher avec Dieu et tout ça. Et à un moment donné, on lui dit, Sherazade, nous t'envoyons. Va dans le nom de Jésus, sois béni, reçois l'autorité et l'onction. Et va. La division est l'enfer. Donc, moi, à force de voyager, j'ai développé un discernement, je vais dans des endroits, ce ne sont pas des églises. Je peux me permettre ? Alors, ils ont un pasteur, ils ont un site internet et une association. Ça peut s'appeler, je ne sais pas, l'église de la pierre vivante de Tokyo, j'en sais rien, d'accord ? N'allez pas voir s'il y a une église de la pierre vivante de Tokyo. Bref. Tu y vas et tu te dis, les gens qui sont pasteurs dans cette église n'ont pas d'autorité. Ils sont autoproclamés. Et du coup, je peux me permettre le mot, c'est le bordel dans l'église. Amen. Et c'est pour ça, quand moi j'essayais de comprendre pourquoi des fois il y a eu des abus dans des endroits et tout ça, des fois je disais à Dieu, ça ne peut pas exister Seigneur, un abus dans l'église. Ça ne peut pas exister, il y a le Saint-Esprit. Tu es avec moi ? Ça ne peut pas exister parce que les surveillants, Dieu nous a donné du discernement. On est censé veiller sur vous. Donc moi ça me rend des zinzins de savoir qu'il pouvait y avoir des abus sexuels. Et Dieu il m'a dit, j'en ai réfléchi bien. Il y a des endroits où ça se passe parce que ce n'était pas moi à la tête. Donc je m'en suis retirée. Pas toutes, mais beaucoup. Et principalement des églises ethniques. Je peux me permettre ? Parce qu'il y a quelque chose, il y a des guerres de tribus. Je peux me permettre ? Hein, je vous aime, vous le savez. Hein. Il y a des guerres de tribus. Et du coup, c'est un esprit de division et l'ennemi s'engouffre là-dedans. Si tu as une église, crois-moi, si tu as une église avec les 5 ministères, où dedans, tu as des prophètes et tout ça. Tu es avec moi ? On va dire que les dégâts sont quand même limités. Une église inspirée du Saint-Esprit. Donc, dans cette réforme, comme l'église, avec un grand E, c'est une grande maison, là où il y a des piliers de bois, le Seigneur va retirer les piliers de bois. On veut pas de piliers de bois. On veut des églises. Des vraies églises. Amen. Et en Occident, si je peux me permettre, être évangélique, c'est fun, c'est machin. Si tu vas en Érythrée d'être pasteur, te coûte la vie. Ça fait vite le tri. Hein. Et quand on était à la convention des prophètes, je leur ai dit, pour moi, le plus gros bazar qu'on a en France, c'est qu'il y a toutes sortes de... Vous êtes avec moi, toutes sortes de machins et tout ça. Et puis en fait, tu vois, tu as des pasteurs qui sont là, qui sont de Serbie et tout ça. Vous êtes avec moi ? Eux, ils vont te dire, ben en fait, nous, ça se passe pas comme ça, en fait. Parce qu'un pasteur, il tient pas longtemps, en fait. Il a intérêt d'être appelé de Dieu. Amen. Donc, en fait, il y a un tri et j'ai commencé à être vraiment visitée par Dieu comme une crainte de Dieu. Il y en a qui servent Dieu, ils ne sont pas appelés de Dieu. Vous vous êtes fait votre propre autoproclamation et il y a des églises qui vont s'éteindre. Je dois le dire. Amen. La réforme a fait que des choses se sont ébranlées. Et il y a des églises, ce ne sont pas des églises. et sois pas rapide à construire une église. On construit pas une église, Christ construit son église. Amen. Donc voilà les grands points, en gros, de la réforme. Je les redis. Une véritable louange. La louange va être rendue à la maison de Dieu. On n'est pas là pour vendre des albums. Amen. Mais tu peux en vendre, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas là pour ça. Et elle va être expressive. Le travail d'équipe avec les 5 ministères. Dieu va commencer à lever des ministères dans chaque église. Repérer les prophètes, repérer les évangélistes. Les évangélistes, je veux vous dire, je vous honore. En ce moment, avec Pierre, on en parle beaucoup. On vous aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous avez un peu capté notre cœur. Parce qu'en fait, vous êtes le filet du réveil. C'est vous qui allez chercher tous les poissons. Et allez-y, hein. Allez-y, c'est le temps. Hein. Vous avez de la chance. C'est un ciel ouvert en ce moment. Allez évangéliser, les gars. Les filles, les gars. Les générations ensemble, les nations ensemble, et on va avoir un tri dans la maison de Dieu. Et ça va être la réforme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est nos indulgences à nous? Une louange popstar, des églises non générationnelles, non multiculturelles, et le fait qu'on travaille tout seul et pas en équipe, c'est ça nos indulgences à nous. Et c'est moche. Et ça fait du mal. Amen. Parce que moi, en tant que pasteur, j'ai mes limites. Mais si je te fais croire que je suis la seule pasteur, si je ne peux pas répondre à tes besoins, eh ben, je te fais du mal, du coup. Alors que si je suis en équipe, quelqu'un d'autre peut répondre à tes besoins. Alors, on va louer Dieu, si ça vous va. Je ne sais même pas quelle heure il est, excusez-moi. Quelle heure? 12:20. Amen. Donc, on va louer Dieu comme il est marqué dans la parole de Dieu. Alors, tu sais quoi, ça va être un peu gênant pour toi, mais franchement, maintenant, j'en ai plus rien à faire, ça te dit. On va commencer la réforme. On va la commencer. Donc, on va louer et commencer à vous lever, trouver quelqu'un de 60 ans et au-dessus et aller lui faire un gros câlin. Donner de l'amour aux personnes âgées. Et si vous êtes d'une autre nation, allez prendre quelqu'un d'une autre nation dans les bras. Allez voir quelqu'un qui vient d'un autre pays et prenez-le dans les bras. Une église multiculturelle, multigénérationnelle, remplie de louanges, en équipe et inspirée par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Des vagues et des vagues et des vagues d'amour. On va louer Jésus.